On lui dit qu'elle lui faisait la cour. Une fois, il avait fait une sortie contre l'usage des corsets. Le lendemain, Olga se montra dans une simple casabaïka en velours bleu garni de martre. Que lui en fit compliment, elle répondit qu'elle ne porterait plus de corset. Et pourquoi cela? Mais n'avez-vous pas dit que cela ne vaut rien? Vladimir comprit enfin qu'elle en voulait à son repos. Il ne s'en montra que plus réservé, évita de se trouver seul avec elle et se lia davantage avec le mari. Un soir, on causait d'une femme de sa société pour laquelle un jeune officier venait de se faire tuer en duel. Chez ces coquettes, dit Mirel, le sentiment de l'honneur n'existe donc pas. Hélas, reprit Vladimir, l'honneur d'une coquette se juge comme celui d'un conquérant, il dépend du succès. Mais les hommes qui se respectent sont à l'abri de ces femmes. Leur pouvoir ne s'étend que sur les sots et les niais. Comme les chats qui n'ont pas le gibier plus noble à leur portée attrapent des souris et des mouches. Malheureusement, cette race se multiplie, car nos femmes ne savent plus que lire des romans et toucher du piano. Vous méprisez les arts? Interrompit Olga. Dieu m'en garde, mais sans travail, il n'y a pas de vrai plaisir. Ces artistes qui ont laissé les chefs-d'œuvre ont trempé leurs pinceaux, leurs plumes, dans leur sang et leurs larmes. Pour les comprendre, il faut être capable de créer quelque chose soi-même. Vous avez raison, dit Olga avec tristesse. Bien des fois, le vide de mon cœur m'épouvante. Mais essayez de vous occuper, vous êtes jeune, le cas n'est pas désespéré. Elle n'osa affronter son regard. Des semaines se passèrent. D'épais brouillards enveloppent le château, la neige couvre la plaine. L'étang s'est revêtu d'une couche étincelante de glace. Mais le traîneau n'a pas quitté la remise et les peaux d'ours émergent des bataillons de mites. Olga reste couchée sur son divan. Elle se creuse la tête pour trouver un moyen de réduire l'ennemi. Le voir à ses pieds et puis l'écraser de son dédain. Ah, de quel prix ne paierait-elle pas ce suprême bonheur? Tu peux te flatter d'exercer sur ma femme une bonne influence, dit un soir Mirel à son ami, en lui montrant Olga absorbée par sa tapisserie. Elle ne fait que travailler depuis quelque temps. Vladimir la regarda. Vous ai-je dit, demanda-t-il d'un ton assez brusque, de vous fatiguer la vue et de vous enfoncer la poitrine? Voulez-vous bien laisser là ces aiguilles? Elle se leva docilement. Vous avez mieux à faire ici. Les bâtiments, les écuries ne laissent rien à désirer, mais dans la maison, je le regrette de ne pas constater cette propreté exquise qui distingue les intérieurs hollandais. Et voilà une occupation toute trouvée, qui n'altère pas la santé, ni la beauté. C'était la première fois que Vladimir daignait faire un compliment même détourné. Olga leva sur lui des yeux étonnés et timides, et une vive rougeur colora ses joues. Le lendemain, quand Vladimir arriva, il la trouva occupée à balayer les toiles d'araignée du plafond. Il lui arracha son balai et le déposa dans un coin. Ce n'est pas là un ouvrage qui puisse vous convenir, dit-il doucement. Il est inutile de remplir vos poumons de toute cette poussière. Mais comment faire alors? Mes domestiques ne sont pas malheureusement des Hollandais. Ils le deviendront. Non, soyez seulement sévère avec eux et juste en même temps. Non pas une fois, mais tous les jours, toute l'année. N'oubliez pas que vous êtes là pour commander. N'imitez pas Napoléon qui monte la garde à la place de son grenadier endormi. Après cette semonce, il lui offrit le bras et visita avec elle toute la maison, jusqu'à la cuisine et la cave. N'y a-t-il pas là de quoi vous occuper du matin au soir? Surveillez l'ouvrage, vérifiez les comptes. Votre mari vous en sera reconnaissant. Lorsqu'ils furent sur le perron, il lui montra le jardin. Quand viendra le printemps, semez, plantez, arrosez, bêchez, arrachez les mauvaises herbes. Vous vous en porterez que mieux. Là, vous pourrez même vous montrer féroce, puisqu'il faut cela aux femmes de temps en temps. Vous faites une guerre sans pitié aux chenilles et aux vers blancs. En revanche, je recommande à vos soins mes petites amies les abeilles. Et maintenant, dit-il en revenant au salon, maintenant je vous prierai de me jouer quelque chose, car vous êtes vraiment musicienne. La barina tremblait de tous ses membres. Elle se mit au piano, sans lever les yeux, et laissa courir ses doigts sur les touches. Je comprends votre jeu en voyant vos doigts, dit Vladimir à voix basse. Ces doigts fins, transparents, qui semblent doués d'une âme. Olga avait pâli. Tout son sang refluait vers son cœur. Elle dut s'arrêter un moment, puis elle entama la sonate du clair de lune. En entendant vibrer les premiers accords du plaintif adagio, Vladimir cacha ses yeux dans sa main. Tout le charme magique que l'astre des nuits répand sur un paysage d'été semblait descendre sur eux, les envelopper dans ses ombres noires et sa mélancolique lumière. Leurs âmes flottaient, entraînées par cette langoureuse, douloureuse mélodie. Quand le dernier son expirait dans l'air, Olga laissa retomber ses mains lentement. Ni l'un ni l'autre n'osait parler. Renoncement, résignation, dit enfin Vladimir. Voilà ce que nous enseigne cette étrange sonate. Voilà ce que tout nous enseigne, la nature, le monde où nous vivons. L'abnégation du cœur, que ce soit un amour méconnu qui garde sa foi sans se plaindre, ou un amour qui se condamne au silence éternel, nous devons tous apprendre à nous résigner. Ses yeux paraissaient humides, sa voix avait une douceur inaccoutumée. Il resta quelque temps sans revenir. Olga le comprit. Puis un jour, son mari alla seul à Coloméa pour y faire des emplettes. Elle sentait que Vladimir viendrait. À tout moment, son cœur s'arrêtait dans sa poitrine. Quand les ombres du crépuscule entrèrent dans sa chambre, elle s'enveloppa dans sa casabaïka et alla se mettre au piano. Elle essaya un prélude, puis n'y tenant plus, termina sur une dissonance, se leva, défit sa pelisse qui l'étouffait, et arpenta le salon, les bras croisés fiévreusement. La porte s'ouvrit. Vladimir entra. Elle rougit, ferma sa gazabaïka et lui tendit la main. « Où est Michael ?» demanda-t-il.
« À Coloméa. »
« Oh, alors je...
Non, non, vous ne vous en irez pas ainsi. »
Vladimir hésitait.
« Depuis ce matin, je vous attends. » dit-elle d'une voix oppressée. « Je vous en prie, restez. »
Vladimir déposa sa casquette sur le piano et prit l'un des petits feuillets bruns. Olga fit encore quelques pas, puis tout à coup, elle s'arrêta devant lui et à brûle-pourpoint.
« Avez-vous jamais aimé ?»
demanda-t-elle d'une voix brève, saccadée.
« Oui, n'est-ce pas ?»
Un sourire ironique plissa ses lèvres. « Non !» répondit-il gravement. Olga le considéra, surprise.
« Et pourriez-vous aimer ? » dit-elle enfin avec hésitation. « Oh, je ne le crois pas. »«
Vous vous trompez encore. Les hommes comme moi, qui ne se sont point dépensés en petite monnaie, sont peut-être seuls capables d'un amour vrai. Peut-on demander cette chose à ces pommes vertes de 18 ans ? Il n'y a qu'un homme qui en soit capable. » Et une femme, peut-être, si elle n'a pas déjà gaspillé son cœur.
Et comment devrait être la femme que vous pourriez aimer ?
Vladimir garda le silence.
Cela m'intéresse au dernier point.
Il faut que je réponde.
Je vous en prie.
Eh bien, elle devrait être tout le contraire de vous, dit-il tout bas. Olga pâlit, puis rougit coup sur coup, et les larmes lui vinrent aux yeux. Elle baissa la tête.
Ah, cela ne vous fait pas rire, dit Vladimir tristement. Vous n'êtes guère poli, répliqua-t-elle d'une voix étouffée par les larmes. Je suis sincère. Vous me détestez, reprit-elle en relevant la tête par un mouvement d'orgueil blessé. Oui, il y a longtemps, je m'en aperçois. Vladimir eut un rire bref, rauque, douloureux. Eh bien, sachez donc la vérité, s'écria-t-il avec amertume. Ce que je sens pour vous, aucune femme ne me l'a fait éprouver. Olga le regarda, interdite. Son cœur battait à l'étouffer, et le sang bourdonnait dans ses oreilles. « Je pourrais vous aimer, » ajouta-t-il d'un ton presque tendre. « Alors vous m'aimez ?»« Non, il faudrait vous estimer. » Un geste de là. « Non, non, je vous en prie, » dit-il, « ne vous méprenez pas sur ma pensée. Je ne veux pas vous blesser, je veux m'expliquer. » À la vérité, c'est toujours une sorte d'aveugle instinct, une affinité inconsciente qui nous rapproche. Ce n'est pas notre bonheur qui est en cause. Ce sont les obscurs desseins de la nature. Mais si l'amour ne peut naître qu'une attraction naturelle, il ne peut durer que par l'estime réciproque. Non, riez de moi si je prends les choses de trop haut et de trop loin. Je n'ai pas envie de rire, dit-elle d'un air sombre. Ainsi, vous n'avez pas pour moi cette estime. Non, pas toute l'estime qu'il faudrait pour que je donne à une femme mon cœur et ma vie sans réserve. « Vous me méprisez donc ? » s'écria-t-elle avec colère. « Non, je vous plains. Je ne cesse de penser à vous, je voudrais vous sauver. »«
Et pourquoi me méprisez-vous ? De quel droit je ne veux pas être méprisé de vous ?»«
Mais qu'est-ce que cela peut vous faire à vous, à la reine qui voit tous les hommes à ses pieds ?»«
Mais pourquoi me méprisez-vous ? Dites-le, je veux le savoir. »
Emportée par la colère, les yeux étincelants, elle avait posé un pied sur le siège de Vladimir. « Soit, viens écoutez-moi, » dit-il d'un ton glacial. « Vous êtes une femme d'une beauté rare, d'un grand esprit, douée d'une âme tendre, créée pour régner sur l'homme le meilleur qui puisse être. Cela vous suffit-il ? Non, il vous faut chaque jour de nouveaux lauriers. Votre vanité est insatiable. » C'est un vautour qui vous ronge le cœur. Mais ce pauvre cœur ne repousse point comme le foie du titan. Et au bout de tout, on trouve ce dégoût de la vie et le mépris des hommes et de soi-même. Olga poussa un sanglot de rage et ses doigts s'enfoncèrent dans ses cheveux noirs. Comme elle soulevait le bras, la pelisse s'ouvrit. En la voyant ainsi se pencher sur lui, la gorge soulevée par une respiration rapide, les yeux étincelants, les cheveux épars, on eût dit une ménade. Vladimir se leva. Elle poussa un cri de douleur et étendit les bras comme pour le retenir. À un regard de lui, elle baissa le front et ses bras retombèrent inertes. Il sortit, elle s'affaissa sur le tapis, sanglotant. Des jours se passèrent, puis des semaines, un mois entier. Vladimir ne revint pas. Il évita même de revoir Michaël. Olga souffre le martyr. Elle sait maintenant qu'il l'aime et qu'il la méprise. Sa passion s'enflamme également de cet amour et de cette haine. Elle commence des lettres qu'elle déchire. Elle fait seller son cheval pour aller chez lui et elle n'y va pas. Elle reste des heures plongée dans une amère contemplation. Toutes ses pensées sont pour lui. Le soir, lorsqu'elle est debout à sa fenêtre, à chaque instant elle croit entendre le pas de son cheval ou sa voix. Que de nuits elle passe à se retourner sur sa couche sans sommeil, jusqu'à ce que l'aube lui ferme les paupières. Elle commence enfin à comprendre la musique et les poètes. Il fait presque nuit. Elle est à son piano, elle joue la sonate, et avec les sons coulent ses larmes. Michaël s'approche doucement, reste debout derrière son tabouret et l'attire à lui.
Il ne la questionne pas. Elle appuie sa tête contre sa poitrine et pleure. La somnambule avait peu à peu baissé la voix et elle s'était détournée de moi par un mouvement d'instinctive pudeur. Un amour chaste, profond, faisait vibrer tout son être. Elle reprit son récit. Chapitre 7. La nuit de Noël, Olga revenait en traîneau de Toulava, où son mari avait dû à déposer quelques papiers chez le curé, et la route passait devant la propriété de Vladimir. Un frisson la saisit quand son mari fit arrêter à la porte de la cour. « Viens, lui dit-il, allons le prendre. » Olga ne bougeait pas. « Tu ne veux pas ?» Elle secoua la tête. Mirael entra seul, puis revint au bout de quelques minutes avec Vladimir, qui salua respectueusement et monta dans le traîneau. Pendant le trajet, personne ne parla. Assise à côté de Vladimir, Olga se tenait immobile. Une seule fois, un contact involontaire la fit tressaillir. Lorsqu'on fut arrivé chez Mirael, Vladimir eut un sourire étrange en se retrouvant en face de ce château dont tous les coins lui étaient familiers. Dès qu'il eut aidé sa femme à descendre et qu'il eut débarrassé de sa lourde pelisse, « Mais voilà un réveillon complet !» dit Mirael en se frottant les mains. « Il faut que j'aille voir ce que font les enfants !» Il sortit, la laissant avec Vladimir. Olga se jeta dans un fauteuil et roula une cigarette. Et tout à coup, elle se mit à rire d'un rire nerveux. « Votre aversion est si forte, fit-elle, que vous ne pouvez plus vous trouver sous le même toit que moi. »« Mais vous ne voulez pas me comprendre, » dit Vladimir d'un ton froid. « Ah ! » s'écria-t-elle, « si vous n'étiez pas incapable d'un sentiment profond, vous me jugeriez avec plus d'indulgence. » Cette fois, Vladimir pâlit. « Vous croyez ? » dit-il. « Eh bien, sachez que, oui, je vous aime. » Olga jeta sa cigarette en éclatant de rire. « Oui, et vous êtes la première femme que j'aime, » continua-t-il avec calme. « Oui, cet amour me fait souffrir. » Non parce que je ne puis vous posséder, mais parce que je rougis de vous aimer. Je souffre de voir qu'une si belle nature a pu produire un si détestable caractère. Olga tressaillit sous ces paroles. Ses yeux demandaient grâce. « Ne me regardez pas ainsi, » s'écria-t-il. « Il ne m'est pas permis de vous ménager. Je n'aurai point pitié de vous. » En avez-vous eu pour le jeune Bogdan que le seigneur de Zavale a tué en duel dans le bois de Toulava à cause de vous? Ou pour Demetrius Litvin qui s'est brûlé la cervelle pour vous? Avez-vous eu pitié de vos enfants, de votre mari, le jour où vous avez permis au comte Zadovski de vous faire la cour? Où vous avez autorisé... Mais de quoi m'accusez-vous là? S'écria Olga en bondissant de son fauteuil, épouvanté, se tordant les mains. « Qui a pu dire ces choses-là de moi ?»« Mais tout le monde l'a dit !» repartit Vladimir avec un mépris à peine déguisé. « Eh bien, le monde en a menti » dit-elle avec force, la tête haute. Ses yeux brillaient, ses joues s'étaient colorées. « Et moi, Vladimir, je dis la vérité, je suis innocente du sang de ces hommes. » « Pas une goutte ne retombe sur moi. »« Oh, ne cherchez pas à me convaincre, » reprit-il d'un ton pénible. « Je ne puis pas vous croire. » Olga arrêta sur lui un long regard de douleur et d'amour, puis les yeux secs, le front baissé. Elle alla prendre dans son boudoir un paquet noué d'une faveur rose. « Croirez-vous ces lettres ? » dit-elle à Vladimir qui l'avait suivie. « Ah, votre mari peut revenir d'un instant à l'autre, » fit celui-ci avec inquiétude. « Eh bien, qu'il vienne, » répliqua-t-elle. « Je ne souffrirai pas qu'on m'insulte. Vous allez m'écouter, ensuite vous jugerez. Voici un billet de Litvin, écrit 2 jours avant sa mort. Est-ce là le langage d'un homme qui va se tuer pour un chagrin d'amour ? Elle jeta le pli sur la table avec dédain. Vladimir le prit et le parcourut avec une hâte fiévreuse.
« Voici des lettres de Bogdan. Lisez-les. Est-ce là un amant s'adressant à une femme pour laquelle il va donner sa vie ? Litvine s'est brûlé la cervelle parce qu'il avait plus de dettes que de biens. Bogdan s'est battu avec le seigneur de Zavale à la suite d'une querelle de jeu. Voici encore des lettres de M. de Zadavski, du comte Michelli, de tous les autres qui me poursuivent de leurs assiduités. Est-ce ainsi que s'expriment des amants ? Je suis une coquette, soit ma vanité est sensible aux hommages. Je ne suis pas une femme perdue. Je n'ai jamais failli, je le jure. » Elle se tourna vers le crucifix accroché au-dessus de son lit, parut hésiter, puis d'un ton ferme. « Non, dit-elle, je le jure sur la tête de mes enfants. Maintenant, vous savez tout, vous pouvez m'accabler. » Vladimir regardait toujours les lettres avec une stupéfaction mêlée de regrets. « J'ai été injuste pour vous, dit-il enfin très ému. Pardonnez-moi, si vous le pouvez. » Il comprenait qu'il était allé trop loin et il se sentait désarmé, navré, humilié. « Ne me raillez pas, reprit la pauvre femme, les yeux noyés de tendresse. Je suis coupable. Je sens que je suis en train de me perdre. Je ne savais pas ce que c'est que l'amour d'un homme, et je sais maintenant que dans la vie d'une femme, c'est tout. Je périrai, car celui qui seul pourrait me sauver me repousse. » Vladimir s'efforçait en vain de maîtriser son trouble. Il se cachait le front dans la main. Tout à coup, avec un sanglot, elle se suspendit à son cou, l'entourant de ses bras dans une étreinte désespérée. Vladimir était vaincu. Cet homme de fer pleura. Leurs lèvres se rencontrèrent. Ils oublièrent tout pendant une minute de mortelle félicité. Soudain, des pas retentirent dans le salon. Vladimir se dégagea et se rapprocha de la fenêtre. Olga, plus morte que vive, s'appuyait contre le bureau. Son mari entra, les considéra l'un et l'autre d'un œil pénétrant, et annonça que la table de Noël était prête. Il ne fit aucune allusion à cet incident, mais tout le reste de la soirée, il se montra taciturne, tandis qu'Olga vidait coup sur coup plusieurs verres de tokay et folâtrait avec les enfants. Enfin, elle alluma la sainte crèche et appela les serviteurs. Avec eux entrèrent deux chanteurs de Kolendi, un vieillard à longue barbe blanche et un jeune gars aux yeux pétillants de malice, qui entonnèrent avec entrain nos admirables vieux Noël, tristement résignés, tantôt rêveurs et pensifs, ou bien débordant d'une folle gaieté, comme est le tempérament de notre race. Tout le monde fit chorus, et comme on chantait les louanges de celui qui était dans la crèche, et que les pâtres adoraient parce qu'il était venu pour les affranchir de la mort et des ténèbres, les larmes étouffèrent la voix d'Olga, et elle joignit les mains avec humilité en regardant l'ami à qui elle venait de donner son âme. Lorsqu'elle se réveilla le lendemain, le monde lui parut changé. Le petit carré de soleil sur le plancher lui causa une joie enfantine. Le tapis de neige du jardin avait un air de fête. Les corbeaux qui sautillaient sur les mottes blanches semblaient cirés et brossés. Et dans son cœur, à elle, était un trouble délicieux. Le second jour de Noël, Graël dînait chez un propriétaire voisin, petit Russien comme lui, qui avait invité une nombreuse compagnie. Vladimir le savait. Dans l'après-midi, à la tombée du jour, les clochettes de ses chevaux tintèrent dans la cour. Olga s'élança au-devant de lui, puis s'arrêta un peu honteuse et lui tendit la main, les yeux baissés. Vladimir serra cette main qui tremblait et suivit Olga dans sa chambre. Ils s'assirent ensemble sur le petit canapé brun où elle avait si longtemps rêvé à lui. Comme elle appuyait la tête sur son épaule avec une timide tendresse, il y avait dans sa manière et son maintien quelque chose de candide, de virginal.
Elle ne pensait plus à rien en ce moment, ni à elle, ni même à lui. Elle était tout entière à son bonheur. « M'attendiez-vous ? » fit Vladimir tout bas. Elle inclina la tête sans changer de position. Tout à coup, elle lui prit le bras et s'en entoura par un geste de gracieux abandon. « Vous devinez pourquoi je suis venu ?» reprit Vladimir. «
Oh, qu'ai-je besoin de deviner ? Je vous aime, tout est là.
Mais votre conscience ne vous dit-elle pas que nous ne devons pas nous laisser aller ainsi au courant qui nous entraîne ?»«
Vous savez bien que je n'ai pas de conscience, » repartit-elle.
Et un sourire d'une adorable mutinerie partit des coins de la bouche éclaira tout son visage. « J'ai la tête plus froide aujourd'hui, » reprit Vladimir. « J'ai loyalement examiné notre situation. Tout est maintenant entre vos mains. Je suis venu pour décider avec vous de votre avenir. »
« Mais quoi encore ? Je vous aime plus que je ne saurais dire, je ne vois rien au-delà. »«
Olga !»«
Eh bien, » dit-elle en se redressant, « voulez-vous dire que vous avez cédé à l'entraînement d'une heure d'oubli et que vous ne m'aimez point ?»«
Ah !» reprit-il avec une gravité émue, « vous ne devinez pas à quel point je vous aime. Mais c'est parce que je vous aime que je veux vous voir heureuse. Est-ce ainsi que vous pourriez l'être ? Et cet amour qui nous élève au-dessus de nous-mêmes, doit-il vous faire glisser dans l'abîme d'où j'aurais voulu à tout prix vous tirer ? Vous n'étiez pas heureuse jusqu'à ce jour, mais du moins vous n'avez pas failli à vos devoirs. Et ce serait moi qui vous apprendrais à tromper, à mentir. Espérez-vous donc vivre en paix, forcé d'avoir deux visages, l'un pour le mari, l'autre pour l'amant, et ne sachant plus à la fin lequel des deux est le vrai et lequel celui qui ment ? Non, 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 ce n'est pas là ce que je souhaite pour vous. Je ne veux pas vous perdre, je veux vous sauver.
Ah, Olga, mais tu ne sais pas combien je t'aime. Et puis vois-tu, je n'y irai pas sur moi de faire ce qui paraît si simple à tout le monde. Hélas, que ne puis-je t'appeler ma femme ? Le mariage chez nous est un sacrement. À mes yeux, c'est chose vile de voler sa femme au mari. Et il s'agit de Michael, de mon meilleur ami. Enfin, je ne comprends pas le partage. J'aurai la force de renoncer à la femme que j'aime. Mais me dire qu'elle est à moi et la laisser dans les bras d'un autre, je ne peux pas y consentir. »
Olga l'avait écouté en ouvrant des yeux étonnés.
« Alors, que veux-tu donc ? » demanda-t-elle. « Je ne te comprends pas. Il est pourtant mon mari, il a sur moi des droits sacrés. »«
Si ses droits sont sacrés, » répondit Vladimir d'une voix sévère, nous ne les violerons pas, moi du moins.
Vladimir, s'écria-t-elle avec désespoir en lui jetant ses bras autour du cou, mais que faut-il faire ? Parle, tout ce que tu veux, je le veux aussi.
Eh bien, je veux agir avec loyauté, bonne foi, voilà tout. M'aimes-tu vraiment ?
Olga colla ses lèvres à sa bouche dans un long baiser. Je sais enfin ce que c'est lorsqu'on aime, dit-elle tout bas. Je ne pourrais plus vivre en dehors de toi, sans tes yeux, sans ta voix. Embrasse-moi donc. »
Vladimir se dégagea doucement. « Il faut d'abord nous expliquer en toute sincérité. » Il se leva et fit quelques pas dans la chambre. « Si ta vie est liée à ma vie, il faut quitter ton mari ouvertement, la tête haute, en face du monde. » Olga tressaillit.
« Je ne pourrais jamais... » murmura-t-elle, « mais que deviendraient mes enfants ? Et Michael qui m'aime tant, que dirait-on de moi ?»
Vladimir s'approcha d'elle et l'attira sur son cœur. « Mais je ne veux t'imposer aucune crainte, aucune contrainte, » dit-il. « Je n'exige pas que tu me suives. Mais alors, nous devrons renoncer à nous voir. »
« Ah ! » s'écria-t-elle en pâlissant, « tu veux donc m'abandonner ?»
Et s'affaissant, les yeux noyés de larmes, elle pressa le front contre ses genoux.
« Ne m'abandonne pas. Je n'ai que toi pour me soutenir. Je ne veux pas que tu me quittes. » Il voulut la relever, et elle se cramponna à lui avec désespoir, baignant ses pieds de ses larmes. « Je ne cesserai de t'aimer, » dit-il tristement. « Je viendrai tous les jours. Je trouverai moyen de te distraire. Je te ferai connaître ce qui peut enchanter l'esprit, les fleurs, les animaux, les étoiles. J'aimerai tes enfants et ton mari. » Il l'embrassa sur les cheveux. « Mais si tu peux me céder à lui, tu ne m'aimes pas ? » murmura-t-elle. « Et n'est-ce pas te céder si tu restes sa femme ? » répliqua-t-il avec amertume. Elle ne répondit pas. « Il faut nous résigner. »« Mais je ne le puis pas. »« Tu dois pouvoir, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Ton choix est fait. »« Mais je ne sais qu'une chose. » « C'est que je te veux tout entier !» s'écria-t-elle avec une passion qui débordait. « Calme-toi, » répondit-il gravement, « il faut que je parte. Je te laisse le temps de réfléchir. Quand tu auras pris un parti, tu m'écriras. Je reviendrai comme par le passé, en ami, sans rancune et sans espoir. » Il lui tendit la main. « Tu pars sans m'embrasser ?» Elle lui saisit la tête et sa bouche mordit ses lèvres à les faire saigner. « Maintenant va, » dit-elle, et elle releva ses bandeaux qui s'étaient détachés. « Va, oh, voilà que tu ne peux plus t'en aller, voilà que tu es faible. »« C'est vrai, » balbutia-t-il. Il l'étreignit avec force et les yeux se mouillèrent. « C'est pourquoi il est temps que je parte. » Deux minutes après, il était assis dans son traîneau. Olga, debout sur le perron, agitait son mouchoir en voyant le leste véhicule s'enfoncer dans les brumes de la nuit. Chapitre 8. Elle l'attendit vainement le lendemain et les jours suivants. Arrive la Saint-Sylvestre. Cette fois, il ne peut manquer de venir. Pourtant, il ne vient pas. Le jour de l'an, il envoie sa carte par un serviteur. La Barina s'enferme chez elle, cherchant une issue et ne trouvant rien. Toute la vanité de la vie, toute la misère du doute, elle en mesure l'abîme. À la fin, elle ne raisonne plus. Elle s'abandonne à la vague qui l'emporte vers une félicité sans bornes entrevue au loin. Le lendemain matin, elle glisse ses pieds nus dans ses pantoufles et court à son bureau. Elle ne sait trop ce qu'elle lui écrit, mais il faut qu'il vienne. La fièvre la dévore. Le Cosaque monte à cheval et part avec son billet. Il ne rapporte pas de réponse et Vladimir ne vient pas. Celui-ci est assis dans son vieux fauteuil délabré, à la fenêtre de son cabinet de travail, contemplant le paysage d'hiver et lisant le Faust, ce livre merveilleux qu'il a si souvent consolé et retrempé. Dans ma poitrine, hélas, deux âmes sont logées. Ah, ce vers, il le comprend aujourd'hui, pour la première fois. Les ombres du crépuscule tombent déjà. Il dépose le livre à côté de lui, ferme les yeux, et redit à voix basse les strophes qu'il vient de lire. Un bruit léger frappe son oreille, c'est quelque chose qui marche sur des pattes de velours. Ce sera le char, c'est pas la peine qu'il se dérange. Et voilà qu'un rire à demi étouffé se fait entendre au-dessus de lui. Comme il se retourne, il reconnaît Olga, qui ôte sa lourde pelisse et la jette sur lui. Avant qu'il n'ait pu se dégager, elle est à ses genoux, l'entourant de ses bras, le couvrant de baisers. « Mais que faites-vous au nom du ciel ? » s'écrie-t-il avec effroi. Mais à quel danger vous exposez-vous de gaieté de cœur? Le sauvez-vous, Olga? Vous ne pouvez pas rester ici. Je ne bougerai pas, murmura-t-elle. Oh, je ne crains rien, je suis avec toi. Elle l'étreignit avec plus de force et posa la tête sur ses genoux comme un enfant rétif. Olga, ma chère Olga, je tremble pour toi, dit Vladimir d'un ton suppliant. Je t'en conjure, va-t'en d'ici. Tu m'as abandonné, répliqua-t-elle. « Mais moi, je ne t'abandonne pas. Je resterai jusqu'à la tombée de la nuit, et je reviendrai tous les jours. »« Non, Dieu t'en garde, je viendrai, pour sûr.
dit-elle avec résolution. Il la regarda longtemps, comme pour pénétrer sa pensée. Il ne la comprenait plus. Était-ce là, cette femme timide, craintive, irrésolue, qu'il avait connue? Une pensée soudaine fit refluer son sang vers son cœur. « As-tu décidé de mon sort ?» demanda-t-il. « Parle alors !» Olga ne bougeait pas. « Mais parle, je t'en supplie !» Elle sentit que ses genoux tremblaient. « Je n'ai pas la force de choisir entre mes enfants et toi, » répondit-elle sans lever les yeux. « Ne me fais pas souffrir. Rends-moi amour pour amour et cesse de me questionner. » « Mais il le faut pourtant, Olga, ma bien-aimée, réponds-moi, » reprit-il avec angoisse. « Mais je ne veux pas répondre. »« Mais il s'agit de ton bonheur, de ta paix, de ta vie peut-être. »« Non, c'est de toi qu'il s'agit, de ton égoïsme, de tes implacables principes. Tu ne peux donc rien sacrifier alors que moi je te donne tout. » Vladimir se leva. La pelisse d'Olga glissa par terre. Celle-ci, debout, appuyée sur le dossier du fauteuil, le suivait des yeux pendant qu'il se promenait par la chambre dans une poignante émotion. « Je suis venue ici, » reprit-elle, « pour te montrer que je me sens capable de te sacrifier tout, mon honneur, ma famille, moi-même. Maintenant chasse-moi si tu l'oses. »« Je ne te chasse pas, » balbutia-t-il. « Alors, que demandes-tu donc ?» dit-elle en se rapprochant de lui, « puisque je t'appartiens. » « Mais n'es-tu pas la femme d'un autre ?» repartit durement Vladimir, et dans ses yeux brilla un éclair de cette raillerie froide qu'il avait toujours remuée jusqu'au fond de son âme. Cette fois, fermant à demi les paupières, elle soutint son regard avec un sourire dédaigneux. « Donne-moi ma pelisse, » dit-elle enfin. « Je veux m'en aller. » Vladimir, sans dire un mot, lui mit sa pelisse de zibeline sur les épaules. Elle fit quelques pas vers la porte et s'arrêta. Une rage subite la mordit au cœur en le voyant si maître de lui, si fier de sa vertu. Elle sentit que pour le dominer entièrement, pour avoir sur lui pouvoir de joie et de larmes, il fallait le forcer dans ses derniers retranchements. Frappant la terre du pied, elle dit d'une voix brève et nette « Je reste. » Et avec un mauvais sourire, elle s'assit dans le fauteuil. « Pardonne-moi, » dit Vladimir au bout de quelques instants. « Oui, je t'ai offensé, j'en suis désolé. Écoute-moi, Olga, ma bien-aimée. Tu connais maintenant mes fermes convictions. » Tu m'aimes, je le vois bien, tu ne peux plus te détacher de moi. Et moi-même, je ne vois pas comment je ferai pour vivre sans toi. Je t'en prie, ma chérie, prends une résolution. Quitte ton mari, quitte cette maison dont la paix est détruite. Appartiens-moi tout entière. Ces mains te porteront à travers les rudes sentiers de la vie. Je veux te servir, te protéger, ne vivre que pour toi seul. « Mais ne suis-je pas tienne ?» dit-elle lentement, en levant sur lui ses grands yeux calmes. Vladimir s'assit tristement sur le vieux divan fané et baissa la tête sans répondre.
« Tu doutes encore ?»
Elle vint se mettre à côté de lui.
« Comme tu trembles, » dit-elle. « As-tu peur de moi ?»«
Oui, j'ai peur. On aurait pitié de moi. Va-t'en. »
« J'ai pitié de toi et je reste, » répliqua-t-elle en riant. « Tu es un homme perdu. »
Ses pupilles s'étaient dilatées et ses narines frémissaient. Elle était gracieuse et terrible comme une panthère de la forêt.
« Quand tu n'auras plus ta raison, » lui dit-elle, « nous serons égaux. »
Chapitre 9 et dernier. Peu de temps après son mariage, Olga avait gratifié sa nourrice d'une petite métairie cachée dans les bois. C'est là que les deux amants se rencontraient. Vladimir appartenait maintenant sans réserve à sa belle maîtresse. Tous deux se sentaient vivre d'une vie nouvelle. Pour Olga, le souvenir du passé était noyé dans le rayonnement qui, du fond de son âme, s'épandait sur le monde et endorait tous les aspects. Et dans ce bonheur infini, elle avait retrouvé une réserve chaste, une timidité de sensitive, qui touchait Vladimir jusqu'au plus profond de son être. Ce fut alors que, pour la première fois, commença de parler en elle cette seconde voix. Les yeux surhumains de Vladimir avaient éveillé, suscité cette âme nouvelle. Un jour, pendant un orage, les bougies s'étaient éteintes. Des éclairs illuminaient de temps en temps les murs de lueurs blafardes. Olga s'était endormie dans les bras de son amant. Tout d'un coup, des visions lui vinrent. Elle se mit à parler en songe. Vladimir ne comprit pas d'abord, la secoua par le bras, l'appela par son nom. Il ne put la réveiller. Une indicible terreur le saisit et il écouta en silence jusqu'à ce que l'orage se fût dissipé et qu'il la vit endormie, éclairée en plein par la tranquille lumière de la lune. Alors il prit courage et voulut la questionner sur la vie future. Mais elle répondit qu'elle ne pouvait rien voir au-delà des brouillards terrestres. Elle avait seulement peur de se voir ensevelie dans une fosse où les vers la mangeraient. Elle lui fit promettre qu'elle serait déposée dans un caveau. Il s'accoutuma peu à peu à cette seconde âme et finit par vivre avec elle en bonne intelligence. Olga en vint à renoncer presque complètement au monde et n'y fit plus que de rares apparitions. Vladimir venait alors assez souvent au château, et alors il couchait dans cette chambre. Quand le printemps eut fait reverdir la terre, ils cultivèrent ensemble le jardin. Il n'y eut pas une fleur qu'ils n'eussent plantée de concert. Les abeilles se posaient sur les mains d'Olga comme des sœurs imprivées et se promenaient dans ses cheveux. Elle connaissait les nids des fauvettes et des pinsons et celui du rossignol. L'été, il parcourait les champs et le soir, assis sur la lisière du bois, sous un ciel noir semé d'étoiles, Vladimir récitait des morceaux de ses poètes favoris. Puis, après la moisson, on entreprit une excursion dans les Carpates. Mirael formait l'avant-garde avec l'Oursoul, qui leur servait de guide. Vladimir menait le cheval d'Olga par la bride. Ils firent l'ascension de la montagne noire, virent le lac sans fond qui en décore le sommet, et des plus hautes cimes contemplèrent l'immense plaine étalée à leurs pieds. Quand l'hiver vient ensuite les confiner de nouveau à la maison, l'amour leur tapisse de roses et de myrtes les vieux murs, et les muses remplissent de lumière et de mélodie le petit salon où l'on se réunit le soir. Mihaël s'installe sur le sofa avec les enfants, Olga se met au piano, et Vladimir prend l'un des petits fauteuils. Elle joue les compositions des grands maîtres allemands, ou bien elle chante avec Vladimir un des chants mélancoliques du peuple petit russien. Une fois que les temps a gelé, il passe plus d'une heure agréable à patiner au soleil, et Vladimir lui apprend à tailler des arabesques dans la glace. Cependant, elle a aussi ses heures de peine et de tristesse, où le remords l'assaille, où elle voudrait tout dire à son mari, expier son coupable bonheur. Elle se tourmente, s'accuse, se désespère. Mais tous les nuages se dissipent dès qu'elle se retrouve dans les bras de Mihaël, et alors elle est heureuse complètement. Pas complètement. Vladimir se tait. Mais sur son front assombri, elle lit souvent l'amer regret de la faute qu'il a fait traître à son ami. Ce n'est pas tout. On s'est aperçu que la bonne harmonie est troublée entre elle et son mari. On la plaint. Cette pitié l'impatiente. Elle est si fière de son bonheur qu'elle voudrait le crier sur les toits. Elle voudrait qu'on l'enviât, et surtout qu'on enviât Vladimir, dont elle a fait un dieu. Aussi ne manque-t-elle aucune occasion de le distinguer ostensiblement. C'est lui qui lui tient l'étrier, qui l'enlève du traîneau,
qui la débarrasse de ses fourrures. C'est lui qu'elle choisit pour danseur, qu'elle charge de lui verser à boire et de lui découper sa volaille. Elle boit dans son verre ou lui offre le sien. Ses yeux ne le quittent pas quand il est là. Lorsqu'il arrive, on la voit pâlir et rougir. Elle fait son éloge hautement à tout propos. Les plus aveugles finissent par constater que Vladimir Podolev est l'heureux amant de la belle Olga. Des mots à double entente arrivent jusqu'à l'oreille du Mikhaël. Il ne veut pas douter de sa femme. Cependant, le soupçon prend racine et il les observe. C'est ainsi qu'une année a passé. Le printemps jette ses premières fleurs par la porte ouverte du petit salon où ils sont assis tous trois à la table de thé. L'air est chargé d'arômes pénétrants. Les étoiles brillent au soleil. La caille crie dans les sillons verts et une douce langueur emplit les âmes. De petites mouches d'un vert doré bourdonnent autour de la lampe qui les éclaire et des papillons blancs viennent heurter contre le globe de cristal. Vladimir a ouvert un volume de Shakespeare et Olga lit par-dessus son épaule. Juliette. Oh, penses-tu que nous nous revoyons jamais? Roméo. Ne l'en doute pas, et tous ces malheurs serviront de thème à de douces conversations dans les jours à venir. Juliette. Ô Dieu, mon âme est pleine de pressentiments de malheur. Il me semble maintenant que tu es si bas, que je te vois comme un mort dans le fond d'une tombe. Ou mes yeux me trompent, ou tu parais pâle. Les mots qu'elle vient de prononcer la frappent comme un sinistre présage. Elle regarde Vladimir, qui en effet est affreusement pâle. « Je ne puis continuer, murmure-t-elle, je ne sais pas ce que j'ai. »« C'est l'heure du printemps, dit Mikhaël, fermons la porte. » Olga sort un moment sur le perron, puis revient et remplit les tasses. Elle est assise en face de Vladimir. Son mari ne les perd pas des yeux. Pendant qu'il semble absorbé par la lecture de son journal, il remarque qu'ils échangent un regard de folle tendresse. Au même moment, il sent que le pied de sa femme touche le sien. « C'est mon pied !» dit-il simplement. Puis il se lève, les traits horriblement contractés, et sort lentement. « Tu nous as trahis !» dit Vladimir à voix basse. « Oui, je le crains moi-même. Oh, tant pis, il saura tout. » « Désormais je suis tienne, tout à toi. » Vladimir lui prend la main qu'il embrasse tendrement. « Oh, que je t'aime. Il faut que tu restes, j'ai tant de choses à te dire. »« Non, pas cette nuit, je t'en conjure, j'ai un mauvais pressentiment. » Mikhaël avait toussé avant de rentrer. Il vint prendre son thé, puis se plaignit d'avoir la migraine. « Allons nous coucher, » dit-il d'une voix sourde. Vladimir prit congé de ses hôtes et se retira dans sa chambre, où il se jeta tout habillé sur son lit. Un peu après minuit, il entendit sur la terrasse le frôlement d'une robe. Il ouvrit la fenêtre et ne vit rien. Tout à coup, Olga sortit de l'ombre qui la cachait et lui saisit les deux mains. « Voilà ton mauvais pressentiment !» dit-elle en riant. Vladimir ne répondit pas, la fit entrer, regarda le jardin avec défiance et referma la fenêtre. Olga s'était assise. « On dirait que je te fais peur ce soir !» et elle lui jeta ses deux bras comme un lacet autour du cou. « J'étouffe ici !» dit-elle au bout de quelques minutes. « Ouvrons la fenêtre !» Vladimir hocha la tête. « Mais qu'as-tu donc? On dirait que tu crains mon mari. » Elle se mit à rire et courut elle-même ouvrir la croisée. « Je t'en prie, Olga, va-t'en, » répétait Vladimir. « Si tu m'aimes un peu, obéis-moi. » Elle secouait la tête et jouait avec ses cheveux. Soudain, un mouvement qu'il fit, elle se retourna. Son mari était debout devant eux. Elle recula épouvantée. Vladimir bondit pour s'interposer. « Tu peux te dispenser de la protéger, » dit Miral d'un ton glacial. « Elle n'a rien à craindre. Rentrez chez vous, madame. Nous avons deux mots à nous dire sans témoin. » Olga sortit après avoir arrêté un long regard douloureux sur Vladimir, dont les yeux rayonnaient d'un feu sombre. Elle s'enferma et se jeta sur son lit en proie au plus horrible désespoir. Elle entendit son mari gagner sa chambre, puis le galop d'un cheval, ensuite un silence assez long. Enfin le pas ferme de Mirael résonna de nouveau dans le corridor. Elle entendit son cheval noir hennir dans le cour, et quelques secondes après, il était sur la grande route. Le jour parut. Une lumière grise, blafarde, pénétra dans la chambre. Olga ouvrit sa porte. « Personne ici ?» Pas de réponse. Elle sortit sur le perron et appela de nouveau. Alors le cosaque monta de la cour, bâillant et se frottant les yeux. « Où est Vladimir ? » demanda-t-elle. « Et où est le maître ?»«
Le maître a laissé des lettres, » répondit le cosaque d'un ton indifférent en mordillant un brin de paille. « Ensuite, il est monté à cheval. Monsieur Vladimir était parti avant lui. »
Elle regagne sa chambre. Ses genoux plient sous elle, le sang se glace dans ses veines. Elle ne trouve pas de larmes. Prosternée devant le Christ qui est au-dessus de son lit, elle prie en se frappant le front de ses poings crispés. Enfin, le galop d'un cheval résonne sur la route, puis dans la cour. Elle écoute la tête penchée. Ses artères battent, elle n'ose bouger. Des pas montent, elle est prête à défaillir, c'est son mari. « Il est mort, » dit Mirael. « Voici une lettre pour vous. À présent, vous êtes libre de partir. » Elle n'entendit plus rien. Les oreilles lui tintèrent et elle tomba sur le plancher. Lorsqu'elle revint à elle, elle était encore à la même place. Son premier regard tomba sur le crucifix suspendu au mur. Elle ne se rappela rien de ce qui était arrivé. Elle ne sentit qu'un vide dans sa tête et comme une plaie au cœur. Puis elle vit la lettre et à mesure qu'elle la regardait, les idées lui revenaient. Mais elle était comme pétrifiée par la douleur. Elle l'ouvrit presque avec indolence. Voici ce qu'elle lut. « Ma bien-aimée, tu as été tout pour moi, ma vie, mon bonheur, mon honneur. Pour toi, j'ai failli, menti à mes convictions. Ce que j'ai fait méritait un châtiment. Quand tu liras ces lignes, mon destin sera accompli. Ne me pleure pas. L'année que tu m'as donnée vaut une longue vie. Je t'en remercie. Sois heureuse, et si tu ne peux pas l'être, tâche de faire ton devoir. Laisse-moi vivre dans tes souvenirs. Adieu, Vladimir. » Olga plia la lettre en silence, s'habilla, se mit à faire ses malles. Elle voulait partir sur le champ. Tout à coup, elle entendit ses enfants dans le corridor. Elle ouvrit la porte, les bambins lui sautèrent au cou, et elle éclata en sanglots. Les malles restèrent ouvertes. Vladimir fut trouvé dans le bois de Toulava. C'est le lieu le plus calme à 10 lieues à la ronde. Ce fut le garde champêtre de la commune, le capitulant Balaban, qui le découvrit en faisant sa tournée. Il était couché sur le dos avec une balle dans le cœur et un pistolet à la main. Une lettre, qui était dans sa poche, prouvait qu'il s'était suicidé et il fut enterré en dehors du cimetière. Olga ne quitta pas son mari. Elle faillit perdre la raison. Plusieurs fois, elle avait déjà changé l'arme qui avait tué Vladimir avec l'intention de le venger. Mais elle ne voulut pas renoncer à cette infernale jouissance de voir souffrir Mirael. qu'il aimait toujours et qui la savait à lui et perdue pour lui. Sa vie depuis ce temps a été une vie sans soleil. Son visage a pâli, son cœur est malade et les nuits où la lune est dans son plein, il faut qu'elle se lève et marche sans repos. La Barina se tut pendant quelques instants. « À présent, dit-elle enfin avec une touchante résignation, on me jugera et l'on ne me trahira pas. Oh, je sais, dit-elle à un geste que je fis, je sais qu'on saura garder mon secret. Adieu. Le coq a chanté deux fois. Voici l'aube qui borde le ciel d'Orient d'une bande laiteuse. Il faut partir. » Elle sortit lentement, étirant ses beaux membres et relevant ses cheveux, qui donnaient des étincelles au contact de ses doigts. Sur la terrasse, elle se retourna encore et mit un doigt sur ses lèvres, puis elle disparut. Au bout de quelques minutes, je me levai et m'approchai de la fenêtre ouverte. Je ne vis plus rien que le paysage endormi sous la lumière argentée de l'astre des nuits. Quand je parus le lendemain dans la salle à manger, le maître de la maison m'invita à partager son déjeuner. « Je vous mettrai ensuite moi-même dans votre chemin, » ajouta-t-il d'un ton obligeant. « Et comment va madame ?»« Oh, ma femme est indisposée, » répondit-il assez négligemment. « Elle a souvent des migraines, surtout au moment de la pleine lune. »« Ne connaissez-vous pas un remède pour ces choses ?» Une vieille femme lui a conseillé des concombres au vinaigre. Qu'en pensez-vous ? Il ne prit congé de moi que de l'autre côté de la forêt. Je n'ai pas profité de son invitation fort cordiale de lui rendre visite. Chaque fois que je passe de nuit devant la porte du château solitaire entouré de sombres peupliers, un frisson me saisit. Je n'ai jamais revu la Barina. Mais j'ai plus d'une fois revu en rêve ses formes gracieuses, sa tête pleine de noblesse, son visage pâle aux paupières closes, et sa merveilleuse chevelure flottante.